Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocats, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocats.com.
Jusqu'à 17h, vous écoutez L'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé, votre source pour rester branché au 104.7 Outaouais.
Place à la chronique en droit du travail maintenant avec notre spécialiste, Maître Philippe Coderre. C'est pas mal, on est presque dans un film d'espionnage cette semaine. Salut Philippe!
Salut LP!
On va parler de surveillance des employés, là, notion très pertinente en ce temps de télétravail, mais aussi à l'aube du retour des employés au bureau en présentiel. D'abord, quels sont les moyens qu'un employeur peut utiliser, Philippe, pour surveiller le rendement de ses employés?
Il y en a plusieurs, hein, puis probablement que tous les moyens que les gens peuvent imaginer ont probablement déjà été appliqués par le passé. Il y a les caméras de surveillance qui sont une des façons de contrôler le travail. Il y a de surveiller la ligne téléphonique des employés au bureau, par exemple. Il y a surveiller les données de navigation Internet qui peuvent être faites. Ça peut aller jusqu'à la filature même. Donc, on peut faire suivre quelqu'un lorsqu'on soupçonne qu'il n'est pas vraiment malade ou qu'il n'a pas vraiment subi un accident de travail.
Mesdames, messieurs, ceci n'est pas un épisode de District 31, mais bien la chronique en droit du travail de Philippe Coderre.
Exactement. Donc, il y a plusieurs moyens. Évidemment, il y a des balises. Il y a une décision récente qui vient de sortir, puis c'est pour ça que je voulais parler de ça cette semaine. Ça concernait les caméras de surveillance. Il y avait des caméras placées dans un gymnase. Je ne me souviens plus c'était qui l'employeur. Et on soupçonnait qu'un employé avait commis une faute, donc on est allé regarder les caméras de surveillance et ça a été jugé comme étant une preuve recevable parce que les caméras de surveillance étaient là, étaient à la vue de tout le monde, donc l'employé savait que quand il était dans ce gymnase-là, il n'avait pas de vie privée essentiellement.
Est-ce que c'est ça, au fond, qui vient baliser le tout, là? Est-ce que j'en comprends que si les employés voient les caméras ou sont au courant qu'il y a des caméras, ben il n'y a pas de problème, un employeur peut les utiliser et les employés ne peuvent pas se plaindre d'être filmés?
C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des lois, il y a des règles et des droits fondamentaux qui viennent baliser ça. La première règle et le premier droit fondamental, c'est la notion de vie privée. Donc, je parlais tantôt d'expectative de vie privée. Évidemment, quand on sait qu'on est filmé, on a moins d'expectatives, mais ça ne veut pas dire qu'un employeur serait justifié de mettre des caméras dans vos bureaux nécessairement. Parce qu'il y a aussi un concept qui s'appelle le droit de travailler avec des conditions de travail justes et raisonnables, qui est également prévu par la charte. Donc, une surveillance qui est continue et qui est ciblée vers quelqu'un peut vraiment constituer une dérogation à la vie privée de l'employé. Là. Ça peut être déraisonnable. Dans ce temps-là, l'employeur, si jamais il se trouve dans une situation où il viole la vie privée de l'employé, il doit démontrer qu'il y avait des motifs raisonnables de le faire. Donc, par exemple, cet employé-là, il est au bureau de 7h le matin à 7h le soir. Pourtant, son rendement est vraiment insatisfaisant. On voulait voir ce qu'il fait de sa journée. Donc, on a filmé le salarié dans son bureau pendant, par exemple, une période de 4 heures, 3 jours dans la semaine. Ça peut être un motif là, qui pourrait permettre la surveillance de cette façon-là.
Il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, Philippe. Il y a des endroits où, naturellement, il y a des caméras de surveillance pour des raisons de sécurité, que ce soit dans un dépanneur pour des vols, que ce soit au casino, exemple, mais c'est supposé être ciblé plus sur les clients. Si l'établissement décidait de dire on va en profiter pour surveiller nos employés, est-ce que là, on tomberait dans une zone grise, justement?
Tout à fait. Donc, quand on parle de surveillance continue, effectivement, quand il y a des caméras de surveillance, c'est continu, on le sait. Mais la différence, c'est est-ce que l'employeur les regarde à chaque minute, puis à la fin du corps de travail, il va regarder ce que tout le monde a fait pour s'assurer que tout le monde a bien travaillé. Là, on tombe justement dans la zone grise. L'employé pourrait dire, d'abord, c'est une condition de travail qui est injuste, qui n'est pas raisonnable, parce que je me sens surveillé à temps plein. Et dans un deuxième temps, j'ai quand même une certaine expectative de vie privée dans mon travail. Je ne trouve pas que ce moyen-là est raisonnable. Ça pourrait être un argument qu'un salarié ferait valoir. Mais évidemment, il y a des caméras de surveillance à bien des endroits, là. Et la notion d'expectative de vie privée, si je peux l'expliquer aux auditeurs de façon très vulgarisée, c'est comme un peu une aura qui vous entoure, une bulle qui va varier selon toutes sortes de situations. Donc, oui. Selon le contexte, selon le lieu où vous vous trouvez. Donc, on prend tous ces facteurs-là ensemble et on se demande si c'était normal que vous ayez une expectative de vie privée dans ce contexte-là.
Si on utilise le téléphone de notre employeur, comme moi, j'ai un téléphone cellulaire fourni par l'entreprise, est-ce que ça change quelque chose par rapport à la notion de vie privée?
C'est un des facteurs, parce qu'effectivement, si j'utilise finalement les outils de l'employeur, j'ai moins d'expectatives. En revanche, si l'employeur te permet de faire des appels personnels avec ce cellulaire-là, parce que ça devient aussi ton cellulaire là pour la vie de tous les jours, ben à ce moment-là, tu pourrais plaider que tu as une expectative de vie privée, puis tu t'attends pas à ce que l'employeur te surveille puis écoute tes appels. Une nuance qu'on pourrait voir, c'est le cas où il y a des gens là, qui sont justement dans des centres d'appels, et ça le dit quand tu appelles en tant que client que l'appel peut être enregistré. À ce moment-là, on le sait que notre appel est enregistré en tant que salarié. Mais si, en dehors des appels avec les clients, l'employeur normalement permet aux salariés de faire des appels qui sont confidentiels puis personnels, ça serait une violation de la vie privée là, de commencer à surveiller de façon continue les lignes téléphoniques.
Je comprends. Pour les courriels, qu'en est-il pour les employés qui sont en télétravail et qui utilisent donc leurs ordinateurs personnels?
Ben, ça, c'est très délicat. Là, on est dans le très délicat. Normalement, c'est sûr que l'idéal, c'est que l'employeur fournisse le portable. Comme ça, il peut mettre les logiciels qu'il veut bien mettre sur le portable, puis surveiller un peu la navigation Internet également. Il y a une décision qui vient d'être rendue là, en août là, de la Ville de Montréal à cet effet-là, puis l'arbitre a jugé que c'est parfaitement possible de faire ça. Quand on touche aux ordinateurs personnels, là, malheureusement, j'ai pas vraiment de réponse dans la mesure où, selon moi, on est vraiment dans une sphère de vie privée. L'employé a une expectative de vie privée, c'est son laptop à lui. Donc, il faudrait que l'employeur ait un motif raisonnable de commencer à surveiller là, la navigation Internet personnelle du salarié. Donc, ça peut se faire, mais il faut qu'on ait des motifs. C'est ça la nuance ici.
En télétravail, justement, là, jusqu'où l'employeur peut aller, Philippe, dans sa surveillance là, de ses employés? Est-ce qu'il pourrait leur demander, je ne sais pas, de prendre une photo pour prouver qu'ils sont bel et bien au travail ou même leur payer une petite visite à domicile?
Là, on est vraiment dans la plus grande zone grise là, de la chronique. Il n'y a pas vraiment de décision là-dessus. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'en vertu de la charte, la demeure est inviolable. Donc, le domicile de quelqu'un, normalement, on ne peut pas y pénétrer sous aucun prétexte. Donc, je verrais mal comment un employeur pourrait forcer une visite du lieu de travail de ses employés. Par contre, il peut y avoir des enjeux de santé et sécurité au travail. Donc, si l'employeur veut s'assurer que l'environnement de travail du salarié est sécuritaire, bien, peut-être que ça pourrait se justifier sous ce vocable-là d'aller vérifier les lieux de travail de l'employé, que ce soit lui-même ou avec un inspecteur de la CNSSP. Ouais. On est vraiment dans la très grande zone grise.
Mais pas une visite surprise, là, c'est ça que tu veux dire?
Ah non, absolument
ouais.
pas.
Ouais.
Absolument
mais tu parlais pas, de filature tantôt, là, bon, l'utilisation de détectives privés, mais et là, souvent, on va même aller filmer, exemple, un employé qui est en train, je sais pas moi, de faire des travaux ou de pelleter alors qu'il prétend qu'il a trop mal au dos pour travailler. Là, je te donne un exemple comme ça. Mm-hmm. Mais évidemment, le détective peut pas pénétrer dans la maison ou filmer à l'intérieur de la maison. C'est ça la nuance, je présume?
Exactement. Moi, j'en ai déjà utilisé, des détectives privés dans un dossier. Effectivement, on va surveiller un peu dans un lieu public ce que le salarié fait. Et souvent, c'est des mandats très ciblés, c'est-à-dire on dit au détective, surveille de mardi à jeudi, entre telle heure et telle heure, ce que le salarié fait. Et là, on peut être en mesure de voir, par exemple, la personne, voir si elle est vraiment blessée. Là. Il y a eu des cas très, très, très reconnus là, en matière de santé et sécurité où le salarié faisait du ski. Donc, évidemment, sans la filature, c'était pas possible. Cela étant, la filature, c'est l'entrave la plus majeure au droit à la vie privée. Donc, l'employeur doit avoir des motifs raisonnables de faire ça. Il ne peut pas juste se baser sur des rumeurs là, non fondées. Il doit quand même avoir une évaluation de la crédibilité des rumeurs avant de faire ça.
Oui, ça prend déjà une preuve assez solide avant d'aller là.
Exact. Il faut au moins avoir une source fiable. Évidemment, une rumeur, c'est jamais confirmé, puis on utilise ce mécanisme-là pour confirmer la rumeur, mais si c'est juste des cancans, on ne peut pas commencer à adopter là, une telle mesure.
Très intéressant. Autre sujet en terminant, Philippe, sujet important d'ailleurs, il y a une étude qui est venue confirmer cette semaine que la pandémie a un effet plus négatif sur la carrière des femmes que sur celle des hommes. D'un point de vue droit du travail, comment et pourquoi c'est possible?
Ben, il y a toutes sortes de raisons. Là. D'abord, il y a la durée des congés qui sont prévus en vertu de la loi sur les normes du travail. Il y a plusieurs congés qui sont non payés. Ils sont pas très, très nombreux. On l'a déjà dit, il y a 10 jours de congés pour prendre soin de la famille. Il y a la façon que les ménages là, s'organisent entre eux. Il y a toute la question d'équité salariale. Mais selon moi, l'enjeu majeur ici, c'est notre charte. La charte protège plusieurs situations. Donc, protège les gens contre une forme d'handicap, protège les gens contre le racisme, protège les gens de leur droit à la religion. En revanche, ça ne protège pas la conciliation travail-famille. Et on est la seule province au Canada qui n'a pas de protection de cette nature-là. Puis ça, ce que ça fait, l'impact de ça, c'est que les employés dans cette situation-là n'ont pas droit à des accommodements raisonnables. Contrairement à si on est en situation d'handicap, l'employeur doit nous accommoder de façon raisonnable. Alors, je sais que la Commission des droits de la personne milite beaucoup pour qu'il y ait un nouveau critère d'ajouter dans la charte. Et évidemment, comme c'est souvent les femmes, comme l'étude le démontre, qui vont faire les tâches plus ménagères ou
familiales,
les tâches à domicile, ouais, familiales, ben c'est elles qui se retrouvent pénalisées devant cette absence d'accommodement-là prévu par la charte.
On a beau dire qu'on a évolué comme société, mais on n'est pas encore rendu à l'égalité à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être une loi qui va faire en sorte que ça va s'accélérer un peu, là.
Exact. Je pense que c'est vraiment la seule solution. Ou bien, évidemment, il y a toujours l'évolution des mœurs. J'en parlais avant la pandémie, on était en situation de plein emploi. Donc, évidemment, les employés avaient le gros bout du bâton. Là, c'est plus l'inverse, mais ça se peut que le retour du balancier arrive aussi. Donc, ça peut être soit une modification législative ou bien vraiment le fait que les salariés peuvent travailler où ils veulent puis ils vont travailler là où les conditions sont les meilleures.
Ouais. Mais ça, évidemment, c'est moins stable comme situation. Écoute, c'est un sujet qu'on va devoir reparler dans une prochaine chronique éventuellement. Merci beaucoup, Philippe. Excellent travail encore une fois.
Merci, à la semaine prochaine.
Bye-bye.